Accent d'Europe, Frédéric Lebel.
Bonjour, il est à nouveau question de libre circulation dans l'espace européen en ce début 2023. Faut-il en déduire que les contrôles réintroduits pour lutter contre l'immigration illégale ou freiner le Covid sont deux lointains souvenirs? Depuis le 1er janvier, la Croatie est le 27e membre de l'espace Schengen, une zone sans contrôle de passeport, mais où les frontières extérieures sont renforcées. Sur cette question, le bilan de Zagreb en la matière paraît sans faille, mais il fait aussi polémique en raison de ses dérapages. Reportage près de Korenica, le long de la frontière bosno-croate, signé Louis Seyé.
Une brume épaisse recouvre les forêts du massif de Plješevica. Située à 150 km au sud de Zagreb, ces montagnes enneigées séparent la Croatie de la Bosnie-Herzégovine. Et depuis 2013, cette frontière est aussi celle de l'Union européenne. Elle est surveillée par de nombreuses caméras thermiques, mais aussi par les 4x4 de la police croate. Mladen Matovinovic est le chef de la police des frontières dans le canton de Lika.
Nous sommes ici exactement à la frontière avec la Bosnie-Herzégovine. Au pied de ces montagnes, côté bosnien, se trouve un camp de migrants qu'on ne peut pas voir maintenant à cause des conditions météo. C'est l'un des plus anciens campements de la région et en ce moment, il y a environ 200-300 migrants qui attendent le bon moment pour tenter d'entrer chez nous en République de Croatie.
Ces 6 dernières années, la Croatie est devenue l'un des principaux points d'entrée pour les migrants qui tentent de rejoindre l'Union européenne en empruntant la route des Balkans. Et depuis le 1er janvier, la police croate est responsable de la surveillance de plus de 1300 km de frontières terrestres de la zone Schengen.
En tant que pays membre de l'Union européenne, nous avions déjà une responsabilité assez importante et en entrant dans l'espace Schengen, nous prenons en charge sa frontière extérieure et nous sommes prêts. Nous y travaillons depuis longtemps et nous nous sommes préparés de plusieurs façons.
Investissement dans du matériel de pointe, augmentation des effectifs ou encore collaboration soutenue avec ses homologues européens, la police croate est applaudie par les dirigeants de l'Union européenne. Mais elle fait aussi l'objet de critiques sévères concernant les refoulements aux frontières interdits par la Convention de Genève sur les droits des réfugiés. Ces pushbacks, Omar dit les avoir subis près d'une vingtaine de fois. Ce jeune Palestinien originaire de Gaza a passé plus d'un an en Bosnie avant de réussir à entrer sur le territoire croate. Sous une tente montée par la Croix-Rouge dans le centre de Zagreb, il profite d'un repas chaud avant de poursuivre sa route vers la Slovénie avec l'Allemagne comme objectif final.
Les premières fois que j'ai tenté de traverser, les policiers croates me prenaient toujours mon téléphone. Moi, je n'ai pas été brutalisé, mais plusieurs de mes amis ont été frappés. En général, ça se passait comme ça. D'abord, ils récupéraient les téléphones, puis ils les cassaient, puis ils montraient leur matraque et ils frappaient certains migrants avant de les renvoyer brutalement et de façon complètement aléatoire.
Cette gestion particulièrement ferme de la frontière, elle est depuis des années au cœur d'un bras de fer entre l'État croate et les défenseurs des droits humains. Amnesty a dénoncé des violences systématiques et des actes de torture de la part de la police croate. Juriste Antonia Pindulic travaille pour le Centre d'études pour la paix de Zagreb.
Nous avons recensé des situations de personnes violées ou battues, ou certaines qui ont reçu des décharges électriques. Parfois, une arme à feu a été utilisée pour leur tirer dessus, au niveau des oreilles ou à côté des jambes. On a aussi recensé des morsures de chiens. Donc oui, c'est évident que la torture à nos frontières a atteint des niveaux effroyables et terrifiants.
Ces accusations n'ont pas empêché la Croatie de devenir le 27e État membre de l'espace Schengen ce 1er janvier. Les dirigeants de l'Union européenne ont salué les efforts du gouvernement conservateur croate pour surveiller les frontières de l'Union et ils ont donné leur feu vert en décembre. Terezija Gras est secrétaire d'État du ministère de l'Intérieur. Elle réfute les accusations des ONG.
À ces accusations de traitement inhumain par la police, je réponds qu'il n'y a pas beaucoup de preuves concrètes. De notre côté, nous avons toujours demandé que les documents disponibles nous soient soumis. Et lorsque nous avons constaté qu'il y avait eu des abus de pouvoir par certains policiers, nous avons pris des mesures appropriées, des sanctions, des procédures disciplinaires, tout ce qui est prévu par la loi.
Selon l'agence Frontex, plus de 140 000 personnes ont emprunté l'an dernier la route des Balkans. La région est redevenue la principale voie d'accès pour entrer dans l'Union européenne.
Et l'un des premiers pays impactés par cette nouvelle frontière ouverte en Croatie, c'est bien sûr juste au nord, la Hongrie. Budapest a intégré la zone Schengen il y a tout juste 15 ans, en 2008, et n'a eu de cesse de renforcer ce qui est la frontière sud-est de cet espace européen, allant même jusqu'à construire un mur de barbelés de plus de 150 km avec la Serbie. Avec cette entrée de la Croatie, la Hongrie va pouvoir alléger ses contrôles sur son flanc sud-ouest, cette fois, Florence Labruyère.
Depuis le 1er janvier, il n'y a plus de contrôle aux 7 postes frontières routiers entre la Croatie au sud et la Hongrie au nord. En principe, les automobilistes venant de Croatie n'ont pas besoin de montrer leurs papiers pour entrer en Hongrie, quoique la police hongroise procède de temps en temps à des contrôles aléatoires. Même situation aux 3 postes frontières que l'on franchit par le train. Avec l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, la Hongrie peut donc alléger son dispositif douanier. Le gouvernement de Viktor Orban va pouvoir déplacer des effectifs au sud-est du pays, à la frontière avec la Serbie qui délimite toujours l'espace Schengen. La Hongrie reste la gardienne de la forteresse Schengen dans cette région. Mais pour le gouvernement de Viktor Orban, le principal problème n'est pas l'entrée de voyageurs munis de passeports. Le véritable casse-tête, c'est le contrôle de l'immigration illégale. Pour empêcher les réfugiés d'entrer en Hongrie, Viktor Orban a fait bâtir une clôture tout le long de la frontière hongroise avec la Serbie. 160 km de barbelés, équipés de caméras infrarouges. Mais ce mur n'empêche pas certains clandestins d'entrer en Hongrie, avant d'être refoulés vers la Serbie, parfois brutalement, par la police hongroise. Les fugitifs essayent aussi de passer par la route en payant des trafiquants qui les cachent dans des camions. En 2022, le nombre d'entrées illégales en Hongrie a plus que doublé par rapport à l'année précédente. Avec l'entrée de la Croatie dans l'espace Schengen, les passeurs vont-ils changer d'itinéraire? Car pour la Croatie, cela va être très difficile de surveiller plus de 1000 km de frontières montagneuses avec la Bosnie. Mais pour les trafiquants, la Hongrie, qui est un pays plat, reste la voie la plus directe et la plus facile vers l'Europe du Nord. Pain.
Et aux côtés de la Croatie, deux pays, la Roumanie et la Bulgarie, avaient eux aussi renouvelé leur demande pour intégrer Schengen. Demande refusée une nouvelle fois aux grandes dames des principaux intéressés. Les Pays-Bas et l'Autriche ont ainsi fait valoir leurs craintes concernant la corruption en Bulgarie et l'afflux de migrants via la route des Balkans. À Sofia, Damien Vodeničarov.
Vu de Sofia, on a du mal à comprendre pourquoi les Pays-Bas et l'Autriche se sont opposés à l'entrée de la Bulgarie dans l'espace Schengen. La ligne officielle est la suivante. La Bulgarie remplit tous les critères officiels d'adhésion à l'espace Schengen depuis une décennie. Elle a même considérablement renforcé ses contrôles aux frontières extérieures de l'Union. Murs de barbelés, caméras infrarouges, patrouilles de la police. Après la crise migratoire de 2015, Sofia a construit ce dispositif sécuritaire impressionnant, du moins sur le papier, avec l'assistance financière des fonds européens. Mais ce n'est pas vraiment l'analyse que font les Pays-Bas qui dénoncent la faiblesse de la lutte contre la corruption en Bulgarie. Et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte de renchérir en précisant que les migrants passent la frontière en payant un pot de vin de 50 euros par personne à la police, ce que les autorités bulgares nient en bloc. Un autre scandale a également secoué le gouvernement bulgare alors que l'adhésion du pays à l'espace Schengen se décidait à Bruxelles, Amsterdam et Vienne. Des journalistes révélaient que la police avait tiré sur des migrants clandestins s'approchant du mur de barbelés le long de la frontière turque. L'un d'entre eux aurait été blessé par balle. Un autre groupe aurait été illégalement détenu avant d'être reconduit à la frontière et relâché sur le territoire turc. Or, la Convention de Genève doit garantir à tout migrant de pouvoir demander l'asile au poste frontière. S'il est arrêté par la police à l'intérieur du pays, il doit être reconduit dans un camp pour migrants de type fermé, le temps de vérifier son identité. Une fois en Bulgarie, les migrants clandestins sont pris en charge par des passeurs. Là non plus, les incidents avec les forces de l'ordre ne manquent pas. Deux policiers ont été tués en avril 2022 lorsqu'un bus transportant des migrants clandestins ne s'est pas arrêté lors des contrôles de routine et a percuté une voiture de police. En tout cas, cette politique ne semble pas fonctionner puisque même les chiffres officiels montrent une augmentation du nombre de migrants clandestins détenus. Ils étaient 9 000 en 2021 et 15 000 en 2022, la plupart étant originaires de Syrie et d'Afghanistan.
Incrédulité, colère et déception aussi en Roumanie, pays membre de l'Union européenne depuis 2007. Les premiers à pâtir des contrôles aux frontières qui sont donc maintenus, ce sont les routiers. Le temps perdu aux douanes impacte fortement le secteur. C'est le reportage à Brașov, au centre de la Roumanie, de Benjamin Ribou.
Constantin Dogarescu et sa femme Ramona ont la quarantaine et travaillent de chez eux, près de Brașov, où ils gèrent leur société de transport. Ils ont un camion à eux et coordonnent aussi 15 chauffeurs qui font des livraisons de marchandises pour des sociétés dans toute l'Europe. Avec sa femme, ils passent leur journée à gérer leurs chauffeurs à distance, un job relativement prenant.
Certains jours, je reçois 200 coups de fil. C'est plus que ma sœur qui pourtant travaille dans un call center. Elle ne reçoit que 100 coups de téléphone par jour, maximum.
Ce stress du métier est notamment dû au temps passé aux frontières roumaines. Hors de l'espace Schengen, les chauffeurs roumains passent un temps fou pour sortir et entrer dans le pays.
Prenons l'exemple d'un transport qui part d'ici, de Brașov, jusqu'en Allemagne. Très souvent, nos chauffeurs sont immobilisés au retour à la frontière à 400 km d'ici, simplement car ils ont dépassé les temps de conduite à cause du temps perdu au passage frontière de l'espace Schengen. Dans ce cas, leur camion doit rester sur place et c'est à nous d'aller les chercher en voiture. Il faut alors mettre le camion dans un espace protégé qu'il faut bien entendu payer, puis les ramener chercher le camion le lundi. Ce genre de choses n'a pas lieu dans les autres pays membres de l'espace Schengen.
Pour Constantin Dogarescu, la Roumanie est injustement pénalisée par sa position hors de Schengen.
On doit respecter les règlements européens en ce qui concerne les temps de conduite et de repos des chauffeurs, alors qu'ils sont calculés sur la base d'un trajet sur autoroute. On est bien sûr désavantagé vu nos routes. Dans les pays occidentaux, un camion parcourt en moyenne 12 000 km, alors qu'en Roumanie, on en fait au mieux 8 000, et avec un prix de l'essence qui est équivalent, voire supérieur chez nous, alors que le transport est moins bien rémunéré.
L'entrée de la Roumanie dans l'espace Schengen était très attendue pour Constantin et sa femme. Lorsque Constantin était lui-même chauffeur en Italie pendant 10 ans, le calcul était simple. Il faisait une moyenne de 70 km par heure et les temps de livraison étaient toujours respectés. En Roumanie, c'est bien moins évident à cause du temps passé à la douane, mais aussi de l'état des infrastructures. Pour le chef d'entreprise, l'entrée dans Schengen aurait boosté les échanges commerciaux, mais pas seulement.
Il y a vraiment beaucoup de chauffeurs qui quittent le pays pour aller travailler en Europe de l'Ouest, simplement pour ne plus avoir ce stress avec les frontières. Pourtant, les salaires qui se pratiquent en Roumanie sont quasiment identiques. Je suis sûr que si on était entré dans Schengen, beaucoup seraient revenus pour faire de l'international à partir d'ici, au lieu de s'être installés avec toute leur famille dans un autre pays.
Même son de cloche à la Fédération des opérateurs roumains de transport, FORT, qui coordonne 3500 compagnies de transport, soit 40 000 employés. Augustin Agiu en est le président. Il estime à 100 euros les pertes directes par jour par camion roumain traversant les frontières.
D'après nous, les contrôles aux frontières se déroulent avec la rigueur nécessaire. Le problème est qu'ils devraient se faire beaucoup plus rapidement. D'après moi, les autres pays européens n'ont vraiment pas à se plaindre de la qualité des contrôles chez nous. Je ne sais pas quand on aura une autre chance d'intégrer Schengen. C'est la deuxième fois qu'on rate le coche. Cette fois, on avait le dossier pour nous, mais nos politiciens n'ont pas su représenter les intérêts nationaux. Il ne faut pas en vouloir aux Hollandais ou aux Autrichiens. Ils ont suivi leurs propres intérêts. On doit demander des comptes à nos gouvernants qui ont voulu capitaliser sur l'entrée dans Schengen et ont créé de faux espoirs. Maintenant, on n'a plus qu'à repartir de l'avant et si on fait les choses correctement, la prochaine fois, ce sera peut-être les Autrichiens qui nous prieront à genoux de rentrer.
Le veto autrichien pour des motifs d'immigration illégale en provenance de Bulgarie et de Roumanie passe particulièrement mal en Roumanie où la frustration est palpable, à tel point que des campagnes de boycott de produits autrichiens sont apparues dans l'espace public. Certains politiciens ont même relayé cette attitude, laissant entendre que la Roumanie pourrait empêcher l'Autriche de remporter la présidence de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, OSCE, en décembre 2023.
Les derniers rebondissements concernant le Qatargate, ce scandale de corruption impliquant plusieurs membres du Parlement européen, dont une de ses vice-présidentes, Eva Kaili, toujours en détention. Le Parlement a demandé la levée de l'immunité de deux autres eurodéputés et la présidente de l'Assemblée, la Maltaise Roberta Metsola, annonce un grand ménage au sein de l'institution. Le Parlement embarqué dans un scandale de corruption, ce n'est pas la première fois et c'est l'œil européen de Franceline Beretti cette semaine.
Il y a plusieurs façons de corrompre un eurodéputé. En 2011, des journalistes du tabloïd britannique The Sunday Times se sont fait passer pour une agence de relations publiques. Ils ont proposé aux parlementaires de faire passer des amendements favorables à leurs clients pour environ 12 000 euros. Trois hommes se sont fait piéger, dont le Romain Adrian Severin, enregistré à son insu.
Est-ce que vous pourriez déposer un amendement pour nous ?
Oui, voyons ce qui est faisable. Je peux déposer un amendement ou demander à un collègue de le faire.
C'est pas reluisant, mais la commission aussi traîne ses casseroles. En mars 1999, tout l'exécutif de Jacques Santer démissionne, après sa remise en cause dans un rapport interne dévoilé à la presse.
Plusieurs commissaires sont mis en cause pour malversation financière. Le cas le plus marquant est celui de la Française Edith Cresson, alors commissaire à la recherche. Le rapport l'accuse d'avoir fait preuve de favoritisme en engageant un de ses amis dans son cabinet. Ce dernier avait le titre de visiteur scientifique, un emploi fictif.
L'affaire n'a pas que du mauvais, puisqu'elle conduit à la création de l'Office européen de lutte antifraude. Et les équilibres entre les institutions sont modifiés par la suite. Le Parlement prend de l'importance politique, avec un pouvoir de contrôle accru sur la Commission. Ça n'empêche pas d'autres comportements répréhensibles. En 2012, c'était « trafic d'influence », comme le raconte Euronews.
John Daly rend son tablier. Le commissaire européen à la santé vient d'annoncer sa démission. L'OLAF, l'Office européen de lutte antifraude, le soupçonne d'être mêlé à une affaire de trafic d'influence.
Le commissaire est soupçonné par l'OLAF d'avoir touché de l'argent pour favoriser l'introduction de tabac à sniffer en Europe. Mais cette affaire n'est pas terminée, car Daly dit avoir été contraint à démissionner sans pouvoir se défendre. Et d'anciens eurodéputés dénoncent une machination de l'industrie du tabac pour le faire chuter. Et surtout, l'OLAF ne serait pas tout blanc dans l'histoire. Il aurait incité deux témoins à mentir lors de l'enquête pour incriminer John Daly. Il n'y a pas que la corruption qui pose question au sein des institutions. Vous vous en souvenez peut-être, en 2019, la Roumanie prend la tête de la présidence tournante de l'Union et elle est sponsorisée par le plus célèbre des sodas.
Le 31 janvier, lors d'une réunion des ministres des Affaires étrangères à Bucarest, voici comment les journalistes se sont accueillis. Dans les frigos, du Coca-Cola gratuit, des chargeurs de téléphone aux couleurs du géant américain ou encore des fauteuils rouges vifs pour discuter.
C'est Coca qui régale. Et c'est légal.
Coca-Cola n'est pas le seul partenaire de la présidence roumaine. C'est également le cas de Renault ou encore de Mercedes qui, comme Coca-Cola, ont chacun payé 40 000 euros.
On peut se demander si, après ça, les membres du Conseil peuvent prendre des mesures dans l'intérêt général sur l'agroalimentaire ou l'industrie automobile. Alors bien sûr, au sein même des pays de l'Union, l'éthique des individus et la transparence des institutions ne sont pas forcément plus reluisantes. La Hongrie et la Bulgarie, par exemple, sont régulièrement mises en cause pour leur opacité et leur culture de la corruption. Certains à Bruxelles demandent un alignement sur les pratiques les plus vertueuses, pas sur les pires. Mais ils se heurtent à ceux qui défendent la liberté de mandat. Ils n'ont de compte à rendre qu'à leurs électeurs. Les choses progressent doucement. Depuis 2019, les présidents des commissions parlementaires et les rapporteurs doivent publier la liste de leurs réunions avec les lobbies pour chaque travail législatif. On va voir si cette affaire du Qatar va secouer le Parlement européen un peu plus fort, comme le demande sa présidente Roberta Metsola, et surtout renforcer l'indépendance de ses membres.
Accent d'Europe était réalisé aujourd'hui par Françoise Grelot. Retrouvez-nous sur notre site et sur les réseaux sociaux. À demain.